Trouble santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues au sujet de la santé mentale. Et aujourd'hui, c'est une émission qu'on fait chaque année, mais qui est très importante, qui parle de la bipolarité.
Full Santé Mentale sur RCN.
Pour nous accompagner, j'ai le plaisir d'être accompagné à mes côtés de Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul.
Bonjour Thomas.
Notre complice depuis le début de cette aventure de Full Santé Mentale. Ça fait maintenant quelques années. Marie-Paul, vous êtes aussi la présidente de l'association Bipolaire.
Si tu savais, c'est important si tu savais, parce que notre devise, c'est savoir pour dominer la maladie et ne pas la laisser dominer. Donc bipolaire, si tu savais, et donc on va partout pour permettre aux gens de savoir ce qu'il y a à savoir de plus important sur les troubles bipolaires.
Donc je le disais, aujourd'hui on va parler effectivement du trouble bipolaire. Pour nous accompagner, on en est très heureux, nous serons avec le docteur, on dit bien docteur, hein, docteur Marie-Lou Lamourette. Vous êtes pédopsychiatre, même au sein du CPN, Centre Psychothérapique de Nancy. Merci à vous, vous allez nous apporter un regard, j'allais dire, d'expert médical sur le sujet du jour. Et avec nous également l'artiste Ayel. Ayel, vous êtes autrice, compositrice et interprète, je l'ai dit, j'espère dans le bon ordre.
Ouais.
Et vous êtes, vous allez être notre témoin aujourd'hui, parce que quelque part, voilà, vous souffrez d'un trouble bipolaire,
ouais,
qui accompagne votre vie, et on en reparlera évidemment, mais vous avez sorti un album il y a à peu près un an.
Ouais.
Qui était, et on reviendra sur ce mot-là, vous me l'avez dit en préparant l'émission, qui était un peu mon coming out. Donc on en reparlera ensemble tout à l'heure. Vous le savez, pour démarrer cette émission, à chaque fois, nous basons sur ce que les gens ont à dire dans la rue. Marie-Paul, vous êtes allée rencontrer les Nancéennes et Nancéens pour leur poser des questions.
Nous étions quatre de l'association.
Qui nous accompagnent et qui sont présents aujourd'hui dans le studio.
Et donc nous avons recueilli ce que les gens pensent savoir des troubles bipolaires, vous allez voir.
Eh ben, on va écouter ça tout de suite. La première question donc qui était posée, c'était...
Tout simplement, qu'est-ce que c'est les troubles bipolaires pour vous ?
Un trouble bipolaire, c'est quand une personne a des changements d'humeur soudains. Ça peut survenir à tout moment dans la journée et ça peut être du tout au tout et assez rapidement, quoi.
C'est ce qui concerne la personnalité, le changement de personnalité.
C'est quand tu peux changer d'humeur en deux drones.
Ils ont des sens de comportement, son acte peureux. 5 minutes après, il déprime.
Pour moi, les troubles bipolaires, c'est une alternance entre deux états. Soit des moments où on ne va plus être en dépression, on voit tout en noir. Et puis, des moments un petit peu qu'on dit, je crois, maniaques, où tout va très vite. Notre cerveau a plein de choses en tête et on a plein de projets en même temps. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Et c'est des alternances qui durent quand même, je crois, plusieurs semaines de suite à chaque fois. On reste dans le même état plusieurs semaines de suite.
Pour moi, trouble bipolaire que je sache, c'est les gens qui changent de comportement, je crois. Qui d'un coup, ils sont bien et d'un coup, ils pètent les plombs, quoi. Je vois pas, ça pourrait être quoi d'autre, hein.
C'est les gens qui ont des phases hautes et des phases basses, mentalement.
Maladie psychiatrique.
Ils changent... Tout le temps, ils sont... Mais je vous en cite un autre américain, bipolaire, Trump.
Il est hors catégorie.
Alors, on ne peut pas le vérifier, effectivement, mais bon, pourquoi pas. On entend quand même globalement des choses, Marie-Paul, vous allez nous le redire, mais il y a des choses assez justes et puis des choses sur lesquelles j'imagine que nous reviendrons tout au long de nos échanges. Je vous laisse peut-être dire ce que vous en avez retenu de ce micro-trottoir.
La première chose qu'il faut dire, c'est qu'on a été frappé par le nombre de personnes parmi celles qu'on a interrogées, qui disent connaître quelqu'un avec un trouble bipolaire. Ou avoir des personnes même concernées directement dans leur famille. Et ça, c'est pas très étonnant quand on sait que la proportion dans la population des personnes concernées est d'environ 2%. On constate, d'après les réponses qu'on vient d'entendre, elles vont presque toutes dans le même sens, sauf une ou deux personnes qui parlent de phases, de durée de longues semaines... problèmes psychiatriques. Les autres vont vraiment toutes dans le même sens. C'est quelque chose de très haché, des changements soudains, rapides, à tout moment, tout le temps, d'un coup, en deux minutes.
Deux secondes même, j'ai noté, même en deux secondes. Ça peut aller vraiment très vite dans l'esprit des gens.
Donc, il s'agirait d'un changement d'humeur, voire de personnalité. Ouais. Donc, docteur, vous nous direz, est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette expression, changement de personnalité ? Est-ce que cette définition... elle pourrait donner l'impression que c'est un comportement lunatique, en fait, d'être bipolaire. Changer sans raison, comme ça, de façon très rapide. Alors qu'on est quand même confronté à une pathologie qui est classée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parmi les 10 pathologies les plus invalidantes au monde. Et vous confirmerez peut-être, docteur Lamourette, cette proportion. Et de même, dans tout ce qu'on a entendu, personne n'a évoqué le côté plus grave de la pathologie, qui est le risque suicidaire.
Ouais.
On sait qu'une personne sur cinq, vous me corrigerez si je me trompe, une personne sur cinq qui a été diagnostiquée, met fin à ses jours, pas fait une tentative de suicide, hein, mais met fin véritablement à ses jours.
Ouais, ce qui est considérable.
Donc, ce qui remet les choses en perspective par rapport à cette espèce de légèreté quand même un petit peu inexplicable dont on avait entendu parler.
Vous n'y couperez pas, docteur Lamourette, vous nous réexpliquerez quand même ce qu'est le trouble bipolaire, parce que je crois que là on peut vraiment constater, et c'est vrai qu'il y a quand même un vrai amalgame entre beaucoup de choses finalement, et on y reviendra évidemment dans quelques minutes. La deuxième question qu'on est allé poser aux gens dans la rue, Marie-Paul, c'était...
Eh ben, selon vous, toujours, qu'est-ce que le fait de poser le diagnostic de trouble bipolaire peut induire, d'une part pour le malade et d'autre part pour l'entourage du malade?
Le diagnostic, après ça dépend tout à chacun. Je veux dire, il y en a qui peuvent vouloir aider, vouloir soutenir, mais toi peut-être qui vont survivre, laisse tomber. Entre autres, c'est fou quoi, les bipolaires, on se dit, laisse tomber, les berchers, c'est pas la peine quoi. Mais moi, pour ma part, j'aiderais, quoi. Si j'avais quelqu'un de mon entourage, j'essaierais de soutenir, quoi.
C'est déjà très positif dans la mesure où on pose un diagnostic, ça, déjà. Et que, voilà, c'est une pathologie psychiatrique, hein, donc ça nécessite un traitement et ben, ça a un impact sur tout, hein, que ce soit pour les périodes de dépression ou de manie, ça a un impact sur le travail. C'est des périodes où c'est compliqué d'aller travailler, voire impossible. Ça a des conséquences sur la famille, parce que c'est des moments où on n'a peut-être juste pas envie de se lever le matin, pas envie de voir sa propre famille. Ça a des conséquences sur vraiment l'ensemble de la vie quotidienne. Pour l'entourage, si on sait que le diagnostic est posé, ça permet une meilleure compréhension quand même des symptômes du patient, mais pour autant, je pense que c'est quand même pas simple à vivre.
Alors oui, ça fait très peur pour moi, et ça se soigne très bien avec des traitements, parce que c'est une maladie qui se guérit pas. Donc ensuite, il faut se traiter, et je pense que c'est de ce fait que ça ne se guérit pas que ça doit faire très peur.
Adopter son comportement et surtout trouver d'où vient la bipolarité pour prendre le médicament qui convient. Je sais assez bien répondre, je pense, parce que j'ai deux personnes dans la famille qui ont des troubles de bipolarité depuis une trentaine d'années. Et le gros problème de ces gens-là, c'est qu'ils ont du mal de reconnaître leur maladie et de vouloir se soigner. Soit de prendre un médicament régulier qui font que ça fonctionne normalement, le système nerveux.
Moi, je pense qu'il faut que le malade, il accepte. Si c'est pris à temps, si on a un bon médecin ou un bon professeur qui vous donne les bons médicaments, qui soit pas ensuqué, voilà, nos problèmes.
Ça peut induire de l'inquiétude, mais aussi de l'apaisement pour l'entourage, étant donné qu'au moins ça pose des termes précis sur les sauts d'humeur que peut avoir la personne, parce que ça peut vite impacter l'entourage, quoi. Moi, j'ai deux personnes bipolaires dans ma famille.
Je pense que sur la famille et l'entourage, ça peut être perturbant un peu au début. Et le mieux du côté de la famille, c'est pouvoir s'adapter à la personne. Et puis pour le malade, ça peut être un peu dérangeant parce que ils sont un peu pas comme tout le monde, entre guillemets, quoi.
Bah, une certaine appréhension quand même au niveau de la personne. Savoir que si, par exemple, la personne à quoi elle change d'humeur ou autre, pas la prendre tout de suite à la lettre, je pense, être plus conciliant avec elle.
Je pense que pour la famille, ça peut être très compliqué quand même de gérer ça au quotidien.
Oui.
Parce ceux qui le vivent.
Mais moi, je pense que le malade ne se rend pas bien compte.
Moi, je suis un peu du même avis.
Moi, je pense que c'est plus dur pour la famille que pour le malade lui-même.
Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est plus dur pour la famille ou le malade? C'est quelque chose qui revient un petit peu dans ce micro-trottoir, Marie-Paul. Hein.
Effectivement, une question qu'on peut poser. On a entendu, il peut y avoir des réactions bienveillantes comme des réactions de retrait, de rejet. Concernant l'entourage proche, on parle de la famille qui malgré tout va être impactée, inquiète, perturbée au début. Et la plupart des personnes interrogées parlent quand même de s'adapter, de comprendre, d'aider, d'accompagner. Et quelqu'un dit, c'est déjà très important, qu'il y ait un diagnostic posé. Donc poser le diagnostic, c'est primordial, ça permet ensuite de s'adapter. Ça apporte même de l'apaisement, dit quelqu'un, parce que c'était inquiétant, quoi. Par exemple, Ayel, vous nous direz, est-ce que ça s'est passé comme ça pour vous, à partir du moment où le diagnostic a prononcé le mot et, et vous avez été informé, et votre entourage aussi. L'inquiétude, voire la peur qui est mentionnée, vient aussi du fait que les troubles bipolaires sont une maladie qui ne se guérit pas. Elle se soigne, n'est-ce pas, docteur ? Vous nous le direz. Mais elle ne se guérit pas. Est-ce que même ça a un impact sur la longévité ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Quelqu'un dit, effectivement, c'est plus compliqué pour la famille que pour les malades. C'est peut-être un petit peu catégorique, mais voilà, on en parlera aussi. Et si ça ne se guérit pas, mais au moins ça se soigne avec un bon médecin, un bon traitement régulier, des termes employés, c'est le mot important, régulier, traitement régulier. Mais c'est difficile si la personne est en situation de déni. On a entendu plusieurs fois les gens dire ils ont du mal à accepter. Comment est-ce qu'on fait pour aider quelqu'un à comprendre qu'il a un problème de santé et qu'il faut qu'il se fasse soigner tout simplement ? Ça, c'est souvent une question qui revient. L'entourage est un peu désemparé. Comment faire pour persuader ? Alors, on a parlé de l'impact du diagnostic sur l'entourage proche et toute la vie quotidienne en général. Ça inclut aussi la vie au travail. Alors, il y a quelqu'un qui dit que ça rend difficile le fait de se lever, voire d'aller travailler. Quelqu'un d'autre dit moi, je connais quelqu'un, ça, il souffre de troubles bipolaires, mais ça ne l'empêche pas d'aller travailler. Alors, où est-ce que ça se situe, la réalité ? Mais on a aussi entendu le terme de handicap et de maladie. Alors, quelle est la réalité, en fait ? Donc, le fait que ça n'empêche pas forcément de travailler, c'est rassurant, quelque part. Hein. Est-ce que les troubles bipolaires, véritablement, sont un obstacle, alors, à vivre comme tout le monde avec un travail ? Mais est-ce qu'en même temps, est-ce que le travail est indiqué ? Est-ce qu'on peut vraiment aller travailler quand on souffre de troubles bipolaires ? Ou alors, quel type de travail ? Quelles seraient les conditions favorables pour faciliter l'emploi d'une personne qui souffre de troubles bipolaires ? Est-ce qu'on ne risque pas aussi parfois de se heurter à une certaine stigmatisation, une certaine méfiance de la part des employeurs potentiels ? On sait qu'un tiers environ, si je ne me trompe, un tiers environ des personnes diagnostiquées ne sont pas en situation d'emploi. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un emploi ?
Ça aussi, c'est des questions qu'on va se poser. Évidemment, on vous posera la question, docteur, ainsi qu'à vous, Ayel, de savoir effectivement quel est le rôle du travail aussi dans la vie, ou plutôt quelle place on y donne. Je crois que c'est quelque chose d'assez important, effectivement. La dernière question que vous êtes allé poser aux Nancéennes et aux Nancéens...
C'est la perspective extérieure. Comment est-ce que vous pourriez réagir si un de vos proches, ou un collègue, ou une personnalité a révélé qu'il ou elle est... concerné.
Personnellement, moi, je pense qu'il faut réagir de manière ouverte, quoi. Il faut comprendre le problème et puis essayer de fonctionner avec, parce que vous mettre la personne de côté, ça va juste accentuer les troubles. Faut savoir l'accepter et savoir avancer avec.
Moi, j'agirais normalement avec vous. Voyez, je ne compterais pas pour une personne différente. Je ferai en sorte qu'il sente bien et malgré ses troubles, je serai là pour lui et pour la personne, en tout cas.
Moi, j'essaierai aussi de l'aider, de comprendre, de l'accompagner dans ce qu'il traverse, etc.
C'est de tout faire pour l'inciter à se soigner, parce que ça se soigne. Ça se soigne plus ou moins bien, plus ou moins à 100%, mais ça se soigne. Bon, après, il y en a quand même qui sont tellement touchés que quand ils sont soignés, c'est un peu des momies, quoi, quand ils dépeignent. Nous, dans les deux qu'on a dans la famille, il y en a un, ça va très bien. Mais le deuxième, il est obligé, il est toujours... le médicamenteux est tellement fort que pour lui que... il n'y a pas une vie tout à fait normale. Mais ça n'empêche pas de travailler quand même.
Il a un travail handicapé, mais il est sur Mulhouse et donc il vit dans un truc pour handicapés.
Des problèmes mentaux.
Alors, il se trouve que c'est le cas. Je suis concernée par un proche qui a cette pathologie. Étant moi-même soignante, je sais ce que c'est, ce que ça induit et je connais les traitements. Donc, j'ai une vision un petit peu différente de tout à chacun. Mais je sais qu'on parle d'une maladie et qu'on n'est pas juste sur... c'est pas de la mauvaise volonté. C'est quelque chose qui est bien indiqué dans la psychiatrie. Donc, ça n'est pas le patient qui invente ses symptômes.
Mon conjoint est dans le médical, donc j'ai pas peur.
C'est une horreur de vivre avec quelqu'un bipolaire. Moi, je sais que je l'aurais quitté.
C'est un peu une excuse parfois qu'on dit à des gens, attends, t'es bipolaire, toi.
Mais c'est un peu facile, quoi. Alors que c'est pas vraiment comme on est.
Moi, si elle est diagnostiquée, ben, je la ferais soigner, hein. Qu'elle prenne son traitement régulièrement, quoi. Hein, faire les soins qu'il faut, psychiatrie en même temps, tout ce qu'il faut, quoi, pour qu'il aille le mieux possible. Déjà lui et puis nous aussi.
Moi, je prendrais rendez-vous avec un spécialiste qui se connaissait tellement mieux que moi. Et après, si c'était quelqu'un de très proche de ma famille, alors forcément, je l'accompagnerais jusqu'au bout.
Tout va bien, je suis net dans mon comportement. Dès que je suis en colère, je suis en colère. Dès que je suis calme et heureux, je suis calme et heureux.
Alors, on a entendu plein de choses, mais des choses dures, hein, très très dures. Hein. Ouais, on va rebondir là-dessus. Cette dame qui dit quelle horreur de vivre avec quelqu'un qui, qui est touché par la bipolarité, je l'aurais quitté. C'est d'une violence.
Oui. Et puis avec conviction très nette. Hein.
Après, voilà, encore une fois, ça touche le registre des émotions de chacun, mais effectivement, sans jugement, c'est dur à entendre quand même.
Oui, oui, oui. Et puis on a quand même heureusement entendu la grosse majorité des gens exprimer beaucoup de bienveillance. Ouais. Je l'aiderai, je serai là pour lui, je lui prendrai rendez-vous. Après, bon, c'est pas si facile que ça peut-être d'emmener la personne à un rendez-vous médical si elle a pas trop envie. Mais enfin, si l'entourage est solidaire, c'est important. Ouais. Voilà. Et le traitement, vous nous expliquerez en quoi consiste le traitement et quels sont les inconvénients de ce traitement. Parce qu'on a entendu aussi quelqu'un dire que parfois ça aplatit complètement la personne. Voilà, pourquoi est-ce qu'on prend un traitement? C'est pour aller mieux, dit l'entourage. Et de quelle façon l'entourage est-il impacté aussi?
Ça impacte le rôle des aidants, hein. Ça implique les aidants, comment on les accompagne aussi. Ouais.
Voilà.
Donc on a beaucoup beaucoup de questions qui vont remonter de ce qu'on a entendu là aujourd'hui dans ces micro-trottoirs. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va maintenant remettre un peu d'ordre dans nos esprits avec tout ce qu'on vient d'entendre. Et on va écouter un titre, un extrait de l'album, c'est même le titre de l'album de Ayel. Donc je le rappelle, Ayel, merci encore d'être avec nous et de venir nous témoigner de votre vie dans ce studio. Vous avez donc décidé il y a un an de sortir un album dans lequel vous avez choisi de parler de cette maladie qui vous touche.
Ouais.
L'album s'appelle
La Nuit Polaire.
Et l'extrait qu'on va écouter maintenant, c'est La Nuit Polaire. Et vous nous expliquerez justement cet album. Qu'est-ce qu'il représente pour vous dans quelques minutes?
Je voudrais que tu m'emmènes après la nuit polaire, voir les premiers rayons solaires se poser sur la terre, fissurer la glace sous les veines pour laisser fleurir les chrysanthèmes. Je voudrais que tu m'emmènes après la nuit polaire, à travers les champs d'éoliennes où toutes les routes semblent croiser la mienne, après l'air glacé de l'hiver, après la nuit polaire. Oh, après la nuit polaire, c'est promis, avant demain on ira réveiller le volcan sous la mer, debout devant, avant demain. Je voudrais que tu m'emmènes après la nuit polaire, prendre un virage vers le nord, danser sur le fil dans le port et voir mon corps à travers s'élever en un éclair et faire une ellipse solaire. Oh, 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 après la nuit polaire, c'est promis avant demain, on ira réveiller le volcan sous la mer, debout devant. De la tienne pour atteindre l'oreille de l'aurore, là où brûle dans l'eau chaque horizon d'or. Oh, oh, après la nuit polaire, c'est promis avant demain, on ira réveiller le volcan sous la mer, debout devant.
Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
On est avec vous jusqu'à 11h et ce matin nous parlons du trouble bipolaire. Merci à nos invités de nous accompagner. Marie-Lou Lamourette, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre au centre psychothérapique de Nancy. Ayel, qu'on vient d'entendre en musique, vous êtes notre témoin aujourd'hui. Vous êtes autrice, compositrice, interprète et on reparlera avec vous de votre parcours. Ça nous intéresse vraiment beaucoup de vous entendre. Mais par rapport à ce qu'on vient d'entendre il y a quelques minutes des gens qui ont été interrogés dans la rue, j'aimerais bien qu'on remette un tout petit peu d'explication sur ce qu'est le trouble bipolaire. Peut-être qu'on peut repartir de cette base-là, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de gens nous dire c'est des gens qui changent d'humeur d'une seconde à l'autre.
De personnalité,
on a entendu, c'est vrai, ce mot de « ils changent de personnalité ». Je crois, pour connaître un petit peu le sujet, que c'est pas du tout le cas, Marie-Lou Lamourette.
En effet, je pense que c'est important de pouvoir reparler un petit peu de ce que c'est et de ce que sont les troubles bipolaires, parce qu'en réalité, il y en a même de plusieurs types. Alors, on peut croire que ça fait à la fois beaucoup de choses et que ça définit plein de choses. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'y perd. On s'y perd aussi parce que le langage commun, t'es bipolaire, comme t'es schizophrène. Ouais. Enfin, on voit que les maladies mentales, malheureusement, il y a ces mots-là comme ça qui sont utilisés dans la population. Nous, j'ai l'impression qu'on lutte, les psychiatres, qu'on trouve des fois des nouveaux noms pour des choses qui existaient déjà, pour essayer aussi de reprendre autrement. Si on reprend vraiment la base du trouble bipolaire et des troubles bipolaires, c'est donc des troubles de l'humeur. Ouais. Ça veut dire qu'on va observer des variations de l'humeur et qui sortent de la norme. Ce qu'il faut toujours se représenter, c'est que c'est parfaitement normal et adapté d'avoir des modifications de l'humeur.
Pour qui que ce soit.
Pour qui que ce soit, dans la journée, dans la semaine, dans la vie, parce qu'on vit tous aussi des choses plus ou moins difficiles.
Bien
et
sûr.
C'est parfaitement normal, quand on vit, je prends un exemple, une situation de deuil, d'être triste, bien évidemment. Donc l'idée, c'est pas de... je dirais aussi de diaboliser les émotions et ce qu'elles vont et même leur intensité, puisqu'on peut encore une fois avoir des moments dans la vie où on va être dans une forme d'intensité. Après, ce qu'il faut imaginer, c'est que pour le coup, dans le trouble bipolaire, sa première définition, c'est que pour le coup, on a quand même une sortie de ce que d'une régulation plus conventionnelle, et là, on a une sortie de cette régularisation de l'humeur. Et le trouble bipolaire le plus reconnu, qu'on appelle trouble bipolaire de type 1, parce que c'est le premier qui est décrit, il est défini par quelqu'un qui présente une manie, une phase de maniaque, ça peut être aussi appelé comme ça. Une phase maniaque, c'est un épisode qui va durer plus d'une semaine. Donc déjà, vous voyez, on est sur quelque chose de très long.
On n'est pas sur des choses très courtes comme les gens le disent. Hein,
pas du tout, on n'est pas sur quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, on parle vraiment de plusieurs jours. Et au moment de la manie, on va avoir vraiment on parle d'une phase d'euphorie, d'exaltation de l'humeur. Tout va être extrêmement décuplé. On en reparlait même en préparant cette émission. Bah, je donne souvent l'image d'un feu. J'y me dis toujours les émotions qu'on a et ce qu'on ressent. C'est comme un petit feu. Il y a des petites flammes. En fonction de ce qu'on vit, elle va être parfois un peu plus proche des braises, un peu plus des grandes flammes. Mais c'est parce que la vie nous amène à ça. Et la phase maniaque, c'est l'énorme feu, quoi. Là, c'est des grandes flammes. Voilà, tout est fort, tout est décuplé, tout est intense. Que ce soit au niveau, souvent on parle effectivement de cette euphorie très positive, mais parfois ça peut aussi se manifester par des phases où il y a de l'irritabilité, de la colère. Enfin, vraiment, tout est très, 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 très fort.
Oui, parce que parmi les choses qui peuvent arriver, c'est qu'on dort plus bien les nuits ou plus du tout. C'est ce genre de choses, quoi, qui font que du coup, forcément, ça amplifie encore plus cette phase. Ce qu'on appelle up, hein, c'est ça aussi,
ouais,
les phases up and down.
C'est vraiment un emballement. C'est le cerveau, et je dis bien le cerveau, c'est pour ça que je le distinguerai de la personnalité, de la personne et de ce qu'elle est. C'est son cerveau, elle s'est enflammée, quoi. Donc ça y va, ça s'arrête plus, ça va vite, ça va même trop vite. C'est ça la distinction. Parce qu'un cerveau qui va vite, c'est plutôt chouette, hein, dans la vie, de pouvoir réfléchir vite. Sauf que là, ça va tellement vite que ça n'a plus de sens. C'est pour ça que les gens ont dit, ils dorment plus la nuit, ils font des projets qui sont inconsidérés. Ouais. Et in fine, en fait, ils se mettent en danger. Et c'est ça qu'on oublie quand on le décrit, c'est que c'est des gens qui vont être capables, ben, de quitter leur emploi, de contracter un crédit en se mettant avec un risque de grande précarité réelle. On peut avoir des mises en danger, même des recherches de sensations. Donc ça peut être via des consommations toxiques, des conduites automobiles, des conduites sur le plan de l'ordre sexuel qui peuvent les mettre en danger. Et tout ça chez quelqu'un qui n'en a pas l'intention réelle, mais parce qu'à un moment donné... oui, le système s'est un peu emballé. Et cette phase maniaque, on dit que ça doit durer une semaine, mais en réalité, quand on est vraiment à ce niveau d'intensité, au bout de quelques jours, les gens arrivent heureusement assez vite vers le système de soins, ce qui doit pouvoir permettre de poser le diagnostic.
Ouais.
Ça, c'est les phases, le trouble bipolaire de type 1 dans sa représentation la plus presque caricaturale, pas caricaturale, mais on va dire scolaire.
Ouais.
Voilà. Après, c'est là où on a d'autres troubles bipolaires, et notamment le trouble bipolaire de type 2, qui lui va être défini par une phase hypomane, c'est-à-dire un peu moins intense que ce que je viens de vous décrire au niveau de la phase maniaque, qui celle-ci induira beaucoup moins de mise en danger, puisque in fine, quelqu'un qui présente une hypomanie n'a pas forcément besoin d'aller vers le soin et d'être accompagné. Et ce qui va la signer le trouble bipolaire, c'est que c'est... cette ou ces phases hypomanes qui doivent durer au minimum 14 jours vont être associées et combinées à des phases dépressives. Et c'est là où on retrouve l'intensité de la phase de dépression. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a le feu tout flamme. Et là, vous imaginez, on n'a plus qu'un petit brasier. Ouais. C'est pareil, c'est pas forcément de la tristesse. Ça peut être vraiment une extinction des émotions, une anesthésie des émotions. Tout va être fade, pauvre. Et là aussi,
sans relief, en fait, finalement, c'est une vie où tout, il n'y a plus de relief, il n'y a plus rien à ce niveau-là.
À ce moment-là. Et là aussi, on sort d'une tristesse, de l'humeur qu'on peut ressentir à plein de moments de sa vie et qui, là, resteront dans la physiologie. Là, on n'est plus du tout dans la physiologie, on repasse dans quelque chose de la pathologie, comme décrirait quelqu'un, effectivement, qui présente un épisode dépressif caractérisé, une dépression, au sens... presque neurologique du terme, avec un ralentissement des idées, un ralentissement du corps. Et là, quelqu'un l'a aussi très bien dit dans les échanges qu'on a entendus, c'est pas de la volonté de la personne. C'est-à-dire que là, encore une fois, même dans ces phases-là de dépression, on n'est pas sur quelqu'un qu'on doit secouer pour qu'il se lève le matin. On est dans quelque chose beaucoup plus intense.
Ça servira à rien, ça changerait rien, parce que la personne,
elle
est bloquée, elle est limitée, effectivement, parce que la maladie fait sur son cerveau à ce moment-là. Pour bien comprendre, vous parlez du trouble bipolaire, le mot m'échappe, de type 1, c'est ça, voilà.
Oui.
Vous parlez de ces phases maniaques, mais il y a aussi des phases dépressives, des phases basses sur le trouble bipolaire.
Dans le trouble bipolaire de type 1, il y a aussi des phases dépressives, mais elles ne sont pas nécessaires au diagnostic. Là, je vous fais vraiment ma casquette de docteur.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est hors diagnostic, c'est ce que vivent les personnes. Parce qu'on entend beaucoup parler de ces phases, pour ceux qui connaissent un peu plus, les phases up and down, ce qu'on appelait le maniaco-dépressif.
Oui.
C'est bien ça.
Oui, c'est ça. C'est important, je parle effectivement plus de la manie parce que c'est aussi ce qui doit distinguer, je pense, ce que certains imaginent par le changement d'humeur. Il est un peu euphorique, excessif, il est bipolaire. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que je redéfinis bien. Mais bien évidemment, dans le trouble bipolaire, il y a des phases dépressives qui sont même plus fréquente et plus régulière que les phases de manie, et bien évidemment, je dirais tout aussi impactant. C'est pour ça que je vous disais, dans la phase maniaque, on va assez vite vers le soin.
Ouais.
Par contre, dans la phase dépressive, c'est aussi celle qui rend parfois difficile le diagnostic, parce qu'on va moins souvent vers le soin. C'est plus difficile de trouver la bonne accroche de soins. C'est plus difficile de montrer ce qui est difficile, de se faire accompagner, de trouver aussi le bon professionnel qui va justement prendre le temps d'essayer de décrypter tout ce qui se passe pour poser ce diagnostic. Mais dans le vécu, ces phases dépressives sont tout aussi, parce que je ne pense pas après... Vous m'aiderez un peu à remettre dans votre vécu, mais de mon point de vue à moi, j'ai pas l'impression qu'il y en a une qui soit plus facile à vivre que l'autre. Elles sont, ces phases-là, que ce soit en manie ou en dépression, elles sont fondamentalement différentes. Mmh. Elles induisent des choses très différentes, mais elles sont tout aussi difficiles et complexes à vivre.
Et c'est ça qui rend difficile le diagnostic, parce qu'on dit que le trouble bipolaire est une des maladies psychiques les quasiment les plus difficiles à diagnostiquer, en tout cas les plus longues à diagnostiquer.
Alors c'est long, surtout... C'est pour ça que je dis, quand il y a une phase maniaque souvent assez bien identifiée, ça peut aller
plus. Ça simplifie un peu.
Dans le trouble vraiment bipolaire de type 1, avec quelqu'un qui présente une phase maniaque caractérisée, qui a eu recours aux soins, oui, pour un psychiatre. Mais encore une fois, quand il y a le recours aux soins et quand ça passe par ce type de trouble. L'autre difficulté, c'est que il y a ce type 2, je vous en parlais un petit peu, où là, effectivement, on a plus de difficultés d'aller observer, objectiver ces choses-là. Et quelqu'un, quand il vient et qu'il est déprimé, va pas forcément pouvoir lui-même se rendre compte qu'habituellement, il a peut-être une humeur un peu plus haute que la moyenne des autres. Enfin, c'est hyper compliqué, en fait. Et cette difficulté-là amène aussi à prendre du temps dans le diagnostic. L'autre difficulté, à mon sens, et là, c'est... Peut-être je prêche pour ma paroisse, je suis pédopsychiatre, donc moi je vois surtout des enfants. Et on sait très bien que dans le trouble bipolaire, le premier épisode, en moyenne, thymique, c'est-à-dire de phase haute ou basse, il est vers l'âge de 17 ans, en moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a plein, c'est même pendant l'adolescence. Mais au moment de l'adolescence, pour moi, rencontrer énormément d'adolescents, ils n'ont pas forcément encore fait cette phase haute qui va nous permettre de mettre le diagnostic. Donc ils n'ont pas le bon diagnostic, donc ils n'ont pas le bon traitement. Ensuite, ils ont 18 ans, ils changent souvent dans notre filière de soins, ils vont changer de filière de soins.
Ça fait, ils passent d'enfant à adulte.
Tout ça, ça complexifie.
Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'adolescence aussi qui fait que pour l'entourage, c'est d'autant plus compliqué parce qu'on a une tendance à dire bah oui, l'adolescent, c'est normal qu'il s'enferme, c'est normal que.
L'âge difficile.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Et des professionnels aussi, parfois, vont avoir ce retour. Hein. Il faut aussi savoir qu'ils vont dire bah, c'est normal, il est ado. Ouais, et là aussi, c'est toujours pareil. Où est-ce qu'on fixe ce curseur de normalité
Pardon, allez-y, Marie-Paul.
À propos justement du temps qui passe avant qu'on puisse poser un diagnostic, c'est 8 à 10 ans.
8
c'est
à 10
ça,
ans
dans la vie de la personne.
Oui, c'est énorme.
8 à 10 ans d'errance médicale. De consultations, de traitements qui ne marchent pas.
D'où l'importance aussi de toujours refaire le point, de toujours prendre ce temps-là, de refaire de reprendre l'histoire des gens et de se réintéresser de ce qui s'est passé avant pour justement avancer au mieux là-dedans.
C'est la seule chose sur laquelle on puisse se baser, parce qu'on ne peut pas faire une radio ou une prise de sang pour détecter.
Et alors, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois qu'on dit souvent que la personne, quand elle est dans la phase plutôt dépressive, a moins tendance à aller voir le médecin, ou l'inverse peut-être, que quand il est en phase maniaque, c'est plutôt d'ailleurs l'inverse, et que du coup on peut vite dire, bah oui, c'est une petite dépression ou c'est voilà, une déprime, quoi. Qui rend la chose vraiment plus difficile à diagnostiquer, qui nécessite plus de temps pour analyser justement ces cycles.
Complètement, quand on est dans la phase maniaque, c'est tellement fort. L'entourage, en tout cas, va plus aisément aller accompagner vers le soin. Ouais. Dans une phase dépressive, c'est aussi toujours compliqué. On en parlait même entre nous, hein, comment est-ce qu'on amène un proche vers le soin? À quel moment on dit là, il faut... Enfin voilà, c'est
justement,
des limites qui sont
difficiles. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles, je pense aux aidants, aux familles, à quel moment on se dit, tiens, là ça vaut quand même le coup qu'on aille voir, parce que c'est très difficile, surtout si on se positionne eu égard à l'adolescence, vous le disiez, puisque c'est autour de 17 ans que ça se manifeste un peu plus, enfin que ça commence à se manifester réellement. À quel moment on s'inquiète, on se dit, là, il faut peut-être aller consulter?
Je dirais que c'est plus simple, en fait, avant 18 ans, parce qu'avant 18 ans, les enfants, ils n'ont pas trop le choix encore.
Oui.
C'est-à-dire que
oui,
si papa et maman s'inquiètent...
Encore faut-il que papa et maman, justement, arrivent à s'inquiéter de la bonne chose aussi, quoi.
Alors, j'aurais tendance à dire que moi, je m'appuie beaucoup plus sur l'inquiétude des parents.
Ouais.
Je pense que c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. À partir du moment où des parents disent « Mon enfant, il n'est pas comme d'habitude, ça ne va pas, il y a quelque chose », il faut savoir l'entendre. Mmh. Et mieux que ce qu'on observera en une demi-heure, une heure ou même 5 consultations, quand les parents voient quelque chose, je leur fais plus confiance qu'à moi.
Ouais.
Je pense qu'ils sont plus justes que moi. Chez l'adulte, c'est là où parfois c'est plus difficile.
D'accord.
Parce que ça peut être quelqu'un qui refuse activement effectivement d'aller rencontrer
aussi,
quelqu'un,
ouais.
c'est difficile, et ça veut dire qu'à un moment donné c'est la notion de mise en danger qui va permettre de déclencher une rencontre sans forcément avoir le consentement de la personne. Et c'est vrai que dans le fond, personne n'aime ça. Même nous, en tant que psychiatre, on n'aime pas devoir rencontrer quelqu'un, faire alliance avec quelqu'un quand c'est pas le bon moment.
Bien sûr, ouais.
On sait que, d'ailleurs, il y a des lois qui nous le permettent de le faire, c'est qu'on sait que quand la situation est trop débordante, on peut le faire. Mais heureusement, ça reste une marge, et l'objectif d'un psychiatre, c'est reste de rencontrer quelqu'un dans les meilleures conditions possibles, de l'amener vers nous. Ça peut être après, du coup, de passer par un médecin traitant. Des fois, c'est des systèmes de garde comme SOS Médecin, où ils vont pouvoir se déplacer à domicile et puis aussi un petit peu tracter pour amener vers le soin. Je pense que c'est je vais enfoncer une porte ouverte, vous allez voir, c'est répéter de la bienveillance qui va permettre que ça marche, puisque souvent quand les gens aussi veulent pas, ils peuvent avoir peur, ils peuvent avoir peur de justement de cette contrainte-là. Et je pense que si on est bienveillant et qu'on réitère cette bienveillance, je pense, après pareil, vous m'aiderez, mais je pense que la bienveillance, elle s'entend, elle se mesure pas, on peut pas dire la phrase là elle marche, mais c'est un ressenti que les gens pourraient avoir et qui les amènerait vers le soin. Et
j'en profite pour dire que par exemple, il y a des méthodes, je pense au PSSM, où on apprend justement quelques éléments qui permettent de mettre en place une bienveillance active,
les premiers secours en santé mentale.
Avec la méthode ARE, ça je vous invite, si vous nous écoutez, à aller voir un petit peu sur internet, et surtout à vous inscrire d'ailleurs à ces formations de premiers secours en santé mentale. Le diagnostic est posé. Et il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ce qu'on a entendu dans les micro-trottoirs, et on va essayer d'avancer un peu parce que j'aimerais donner la parole à Ayel ensuite, mais c'est le diagnostic est posé, on accepte, et des fois plus difficilement, et puis il y a le traitement qui va avec, et c'est pareil, on accepte ou plus ou moins difficilement. Comment on accompagne ça, et comment les accompagnants, les gens qui entourent la personne atteinte de la bipolarité diagnostiquée en tout cas, peuvent accompagner et faciliter l'acceptation et de la maladie et du traitement?
Il faut aussi laisser le choix à la personne. C'est là aussi toute la difficulté, c'est leur maladie. De la même façon que je ne vais pas obliger quelqu'un à prendre son antibiotique s'il a une otite, je ne vais pas obliger quelqu'un à prendre un différent, enfin, quel que soit son traitement.
Ouais.
Et je pense que là aussi, il faut renormaliser la maladie mentale dans les autres maladies, les autres champs de maladie, et prendre le temps d'expliquer et de laisser le choix aux personnes facilite aussi grandement, du coup, je pense, l'acceptation de tout ça. Moi, j'ai une patiente en tête, en plus, le hasard fait qu'elle va bientôt revenir me voir en consultation. Elle a plus de 18 ans.
Mmh.
Ça fait 2 ans que le diagnostic lui a été donné.
D'accord.
Et elle ne veut pas. Alors, elle l'entend parce qu'on en a beaucoup parlé, on a beaucoup travaillé. Elle le sait, mais elle ne veut pas de traitement pour le moment. Et bien, je lui dis qu'il n'y avait pas de problème. Elle a ses comptes rendus qui donnent le diagnostic. Elle sait que je suis là à n'importe quel moment. Et elle sait aussi qui elle peut aller voir. Et elle connaît les médicaments. Voilà. Il y a une semaine, j'ai eu un petit mail où elle demandait de me rencontrer. Peut-être c'est en lien
Peut-être
avec
c'est ça. C'est le début de l'acceptation du traitement.
Voilà. Et s'il faut 2-3 ans pour y arriver, c'est pas grave, parce que moi, comme je disais, c'est si demain il t'arrive quelque chose, je veux que tu saches quelle est ta maladie et comment est-ce qu'on va pouvoir t'accompagner.
En fait, je vous écoute, c'est un travail d'équipe. C'est un travail de collaboration entre le praticien et le patient.
Et sa famille.
Et sa famille aussi, bien sûr. Alors, dernière chose, et après, on se tournera vers Ayel, mais on l'entendait justement dans le micro-trottoir. Alors, ça nous a tous un petit peu, arrêtés, stupéfaits. Cette dame qui dit, mais moi, vivre avec quelqu'un qui souffrirait de bipolarité, c'est une horreur. Moi, je l'aurais quitté. Et une autre personne qui, juste derrière, d'ailleurs, c'est assez amusant dans le montage qui a été réalisé par Jean-Luc, notre technicien, une dame qui dit, moi, si ça se passe, je vais aller rencontrer un spécialiste pour comprendre. Voilà, il y a ce truc-là aussi d'apprendre, comprendre pour l'entourage.
Parce que l'annonce d'une maladie et d'une maladie mentale et d'une maladie chronique, ça touche tout le monde, ça
Bien
touche
sûr.
La personne et son entourage, principalement la personne qui elle-même doit déjà réussir à l'absorber, à accepter, mais aussi l'entourage. Donc souvent, les gens, même quand ils ont une maladie chronique, aimeraient pouvoir dire « moi aussi je m'en vais », sauf que comme ça les touche, ils ne peuvent pas. Ça peut être une réaction première de peur. Donc je trouvais effectivement très intéressant la dame qui dit « moi je vais aller rencontrer le praticien et je vais aller au-delà ». Je pense que c'est au praticien de proposer, et si ça n'arrive pas, il ne faut pas hésiter, il faut se sentir parfaitement légitime à aller demander, à rencontrer et à comprendre comme on ferait pour n'importe quelle autre maladie chronique.
Ce qui, je ne suis pas sûr, se fasse beaucoup dans n'importe quelle maladie chronique d'ailleurs, d'où l'intérêt aussi que les médecins puissent le proposer. Ayel, vous par exemple, vous aimeriez, vous accepteriez, vous apprécieriez que votre psychiatre vous propose « tiens, voilà, moi je veux bien rencontrer tes proches pour en parler avec eux ».
Oui, ça a été le cas d'ailleurs.
Ça a été le cas.
Je ne sais plus qui l'a proposé. Je crois que c'était au centre expert des troubles bipolaires au moment du diagnostic. On m'a dit, si vous voulez, on propose ça. Je crois que c'était comme ça que ça s'est passé. Du coup, j'ai fait avec mon compagnon de ce moment-là, en tout cas. Et je l'ai proposé à mes parents, mais ils n'ont pas pris la perche tendue.
Ouais.
Mais je pense que c'est normal aussi, c'est des questions, toutes les questions santé mentale. Mes parents ont une soixantaine d'années, on est hyper frileux là-dessus. À cet âge-là, je pense, dans leur éducation. Du coup, ils savent ce que c'est, ils comprennent, ils entendent, ils savent reconnaître les signes quand même. Ils habitent loin de chez moi, mais moi j'ai souvent ma mère au téléphone, et quand elle commence à me dire « Léa, tu parles vite là », je sais ce que ça veut dire. Et elle sait aussi, et du coup, on en parle et c'est cool. Mais oui, le rendez-vous, pour expliquer à quelqu'un qui ne sait pas du tout et qui n'a pas forcément les codes, c'est vraiment cool, je trouve.
Ah, puis, alors, il peut y avoir aussi pour des parents la culpabilité, entre guillemets, de se dire, est-ce que, moi je le vois pour d'autres, mon expérience de diabétique fait que je l'ai souvent entendu de la bouche de mes parents, c'est un peu notre faute, et ça peut être du difficile à porter. Il y a d'ailleurs des structures où on peut aller, je pense à la maison des aidants par exemple aussi, où on peut être accompagné dans ce cadre-là, docteur.
Complètement, il faut savoir s'entourer et puis trouver le bon moment aussi. C'est-à-dire que peut-être vos parents à ce moment-là, c'était peut-être pas OK, et puis peut-être que peu plus tard, la question, et c'est aussi la proposer à différents temps de la maladie, accepter que les gens, ils vont pas tous à la même vitesse, ils vont pas tous au même moment, ils sont pas tous prêts à entendre les mêmes choses à un même instant, mais parfois, s'autoriser à y revenir, comme on peut parfois aussi prendre le temps, même après un diagnostic, de réexpliquer parfois, au bout d'un an, deux ans, finalement, est-ce qu'on peut reparler de ce que vous avez ? Parce que des fois, on se dit, c'est bon, la case est cochée, quelqu'un a expliqué, et en fait, on a peut-être aussi besoin de remettre à jour ce qui se passe, et encore plus finement, parce que dans ces maladies, comme dans toutes ces maladies-là, la façon dont chaque individu va le vivre va être différent. Donc en plus, quand on l'explique de façon, je trouve, très générique. Ouais. Ça, c'est la maladie. On peut donner des chiffres. C'est très...
très technique, presque, ouais.
Voilà. Mais après, il faut savoir l'expliquer en fonction de la personne. Et de dire que vous, dans votre pathologie à vous, avec votre... Beaucoup ont dit qu'il faut trouver le bon traitement. Du coup, ça veut aussi dire qu'on chemine, on avance. Et autant, ça peut être très grossier au début, autant en avançant, c'est plus de la dentelle, quoi. Ouais. Et des fois, ça nécessite aussi de reprendre le temps. Et ça, des fois, on l'oublie tous dans les parcours de soins. Mais d'entendre se dire... au fait, d'essayer de prendre une position un peu plus méta et de se réinterroger sur ce qu'on a déjà pu poser ensemble dans le parcours pour refaire un point, et aussi de fait avec les aidants, de les réorienter vers des associations comme l'association bipolaire, si tu savais.
Par exemple, à nos côtés.
On peut parler aussi de l'association Une Infâme, Union Nationale des amis et des familles des personnes avec un problème de maladie psychique. Les familles se retrouvent entre elles et peuvent échanger leurs expériences.
C'est bien que ces structures existent, effectivement, c'est bien qu'on en parle.
Ça permet de lutter contre le sentiment de solitude qu'on peut avoir face à...
Et on les embrasse, ils sont déjà venus dans nos émissions, et c'est vrai qu'en plus, ils ont une proposition qui est extrêmement ouverte et riche pour les familles et les aidants.
Ils proposent une formation aussi. Une formation qui s'appelle Pro Famille.
Donc on ne peut qu'encourager, et ce qu'on fera c'est d'ailleurs sur les liens de la vidéo de cette émission, on vous remettra les liens de ces structures. Avant de poursuivre, je vous propose qu'on réécoute un extrait de l'album de Ayel. Je rappelle, l'album s'appelle La Nuit Polaire, il est sorti il y a un an et il parle de votre histoire. Ayel, vous avez choisi de nous proposer comme deuxième titre la chanson Et Pourtant. Alors en un mot, cet album, racontez-nous rapidement, mais racontez-nous quand même cet album, pourquoi et comment.
Alors au départ, ça devait pas du tout être ça. Au départ, c'était pile au moment de mon diagnostic, et en fait inconsciemment, c'est ce que font les artistes. Ils couchent sur le papier les choses qu'ils vivent en fait, en tout cas pour la plupart, et c'est ce que moi je fais. Et au départ, ça devait être un album sur les 4 saisons.
D'accord.
Ce qui est rigolo, du coup, hein, on cache un peu, on raconte les choses sous des métaphores, ça c'est mon grand truc à moi, je dis les choses sans les dire... Et finalement, j'ai trouvé plus pertinent d'y aller pour de vrai. Et du coup, j'ai trouvé la métaphore de la nuit polaire. Donc la nuit polaire, c'est cette longue nuit dans les pôles qui dure 6 mois. Donc c'est ma métaphore à moi pour la dépression. Et du coup, tout tourne autour de ça. Et c'est un chemin, en fait, comme on nous demande de faire chez le psychiatre, de à quel moment on était, à quelle hauteur d'humeur. Et pourtant, c'est plutôt le début de la montée, quoi.
De la montée. Ben, on va écouter ce début de la montée, Et Pourtant, sur RCN. Et ensuite, nous poursuivrons nos échanges ensemble. Vous êtes dans l'émission Full Santé Mentale. On est ensemble jusqu'à 11h.
Qu'importe le temps, qu'importe le vent, oh oui. 10h, 11h.
Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais.
Et ce matin, on parle du trouble bipolaire. Nous sommes avec, et on vous en remercie, Marie-Lou Lamourette. Vous êtes pédopsychiatre au CPN, Centre Psychothérapique de Nancy. Et Ayel, vous êtes, alors je répète, hein, vous, et on vient de l'entendre, vous êtes autrice, compositrice, interprète. Avant de que vous nous racontiez votre parcours, j'ai cette question qui, on l'a déjà un petit peu évoquée, mais vous nous avez dit, quand on a préparé l'émission, cet album, c'était pour moi un peu un coming out. Pourquoi avoir utilisé ce terme-là? Et qu'est-ce que ça représente pour vous de le dévoiler au grand public?
Bah, je pense que devant le fait accompli, d'avoir écrit tout un album qui retrace ça pour moi, il y avait deux choix. C'était soit j'invente le plus gros mytho de ma vie et je trouve une autre explication à un album, mais alors c'est à en devenir... Soit il faut dire la vérité, ouais. Et en fait c'est aussi des sujets qui sont abordés beaucoup en ce moment, ouais. Et finalement normaliser ça, je me suis dit, j'ai pas envie de devenir l'étendard non plus des troubles bipolaires, mais sensibiliser les gens un peu, pourquoi pas, leur dire que ça peut arriver à n'importe qui et que on peut vivre avec, on peut faire des albums, des concerts et que voilà, juste il faut apprendre à vivre avec, quoi, mais ouais, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en parler, quoi, plutôt que de le garder pour moi. Et puis je pense qu'il y avait on a parlé un peu du déni tout à l'heure, ouais. Je pense que ça aurait été trop facile pour moi de mettre tout ça sous le tapis. Et là, j'avais plus le choix, du coup. Mais en fait...
là, maintenant, c'est mis, c'est posé là, et chacun s'en saisit comme il le veut. Ayel, vous, le trouble bipolaire, donc vous vivez avec, ça fait combien de temps que vous avez été diagnostiquée et comment ça s'est passé?
Alors, je crois que c'est ma 4e année, là, officielle. D'accord. Que j'ai le diagnostic. Et comment ça s'est passé? En fait, j'étais dans une grande dépression. Et j'ai consulté, je crois que c'était un thérapeute à l'époque, qui m'a vite dit c'est trop pour moi, allez voir un spécialiste plus que moi, quoi. Ouais. Donc il m'a envoyé vers un psychiatre. Donc au départ, on a traité une dépression, comme vous disiez tout à l'heure, de quelque chose qui rentre dans la norme quand même, quoi. Et en fait, pour mon cas, en tout cas, je ne sais pas si c'est automatique, mais en tout cas pour moi, de donner des antidépresseurs et de les prendre, ça a déclenché une phase hypomaniaque chez moi. Et du coup, il n'y avait pas de doute du tout.
Ouais.
Il m'a dit... il n'a pas dit les mots, il a attendu, parce que je l'ai eu au téléphone, parce que c'était tellement intense que... Ouais. Et heureusement, il était hyper, hyper bienveillant, hyper disponible. Mais je me rappelle, je vais dire une petite anecdote rigolote, mais je me rappelle que quand je l'ai appelé, tellement j'étais dans la phase hypomaniaque, que je lui parlais comme si c'était mon pote, quoi. C'était un délire. Et du coup, il n'a pas dit les termes tout de suite, il a attendu qu'on ait un rendez-vous. Il m'a donné les médicaments, donc en vrai, si j'avais été maligne, je ne voulais pas, parce que je me suis dit, c'est pas l'ordre des choses, mais j'aurais pu aller chercher les médicaments, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça traite. Mais il a attendu qu'on se voit pour me dire on va commencer les démarches pour le diagnostic du trouble bipolaire. Il m'a expliqué ce que c'était. Puis bon, au début, on parlait de déni, de difficulté d'acceptation. Moi, je voulais pas. Hein. Moi, il y a quelque chose d'être malade. Et puis, c'est quelque chose qui se soigne pas. Donc, c'est... découvrir qu'on a une maladie qu'on va traîner derrière soi toute la vie, en fait.
Jusqu'au bout, oui.
Donc, c'est bien. Il y a le côté... ça explique plein de choses, quand même. Parce que du coup, on revient derrière sur d'autres phases de la vie, pas forcément la dépression du moment, quoi, sur d'autres moments, l'adolescence, vous en parliez tout à l'heure. Et du coup, on refait le fil et on se rend compte que ce truc qu'on sait jamais trop... On n'a jamais su trop mettre un mot dessus. Il a toujours, enfin pour moi en tout cas, il a été là très tôt et du coup mettre un mot ça rassure en fait et être accompagné voilà. Après.
Vous parlez d'être accompagné, justement, comment ça s'est passé pour les gens qui vous entourent? Vous avez entendu tout à l'heure le micro-trottoir des gens qui disaient ça fait peur. Vous, comment ça s'est passé?
Je vais dire que moi, je l'ai vécu en deux temps, du coup. Parce qu'il y a eu le coming out officiel.
Ouais, bien sûr.
Ce qu'on peut appeler coming out. Mais
en tout cas, c'est le mot que vous y mettez.
Voilà.
Donc, il est important pour vous.
Oui.
Donc, on le garde.
Ok. Juste le début, quoi, le dire à ses proches. Je me rappelle que mes parents étaient effarés, en fait. Ils ne savaient pas trop quoi me dire. Ils comprenaient que c'était grave. Peut-être qu'ils le prenaient même plus grave que ce que c'était véritablement. Je me rappelle que j'ai un ami qui m'a dit quelque chose d'hyper intéressant. Il m'a dit, Léa, de toute manière, c'est juste un mot. Ça change pas ce que t'as toujours été, en fait. C'est un mot qui explique mieux et tu vas apprendre à comprendre, mais ça change pas qui t'es, en fait.
Ouais. Vous avez appris à comprendre, du coup?
Ouais. Ouais, on en reparlera plus tard, mais il y a des lectures aussi qui sont intéressantes pour vulgariser ça.
Parlons-en même maintenant, parce que du coup, ça veut dire que vous avez lu des livres, vous avez essayé de comprendre ce que ça voulait dire.
Pas au début. Au début, j'étais dans un déni. Tout ce que je pouvais ne pas faire.
Ouais, vous le mettiez de côté.
Voilà. Je me rappelle aussi qu'il y a eu la période, on parlait des médicaments. Je me rappelle que mon psychiatre m'avait un peu prévenu que ça arriverait peut-être. Et c'est arrivé d'un moment de rejet. Parce que moi, je suis encore en train de chercher le bon traitement.
D'accord.
Donc du coup, au bout d'un moment, tester des nouveaux traitements toutes les trois semaines... c'est fatigant, il y a plein d'effets secondaires, on est vite démoralisé. Et au bout d'un moment, je lui ai dit on arrête. J'avais besoin de me rappeler pourquoi il les fallait, je pense. Donc après, on a recommencé plus tard, mais j'avais besoin d'un mois de stop un peu, parce que c'était trop. Mais oui, pour les lectures, c'est venu plus tard. Et presque pour expliquer aux autres, trouver les bons mots. Et on en parlera tout à l'heure, mais la BD Goût pile ou face... vraiment très bien pour comprendre comment on vit avec un trouble bipolaire. C'est apprivoiser quelque chose qu'on ne peut pas vraiment apprivoiser. Donc du coup, des fois, on a l'impression, c'est bon, on est des professionnels de notre trouble bipolaire. Et en fait, du jour au lendemain, on patauge de nouveau. On doit retrouver des marques et puis remettre ça dans l'ordre. Enfin, C'est bien imagé, en tout cas je trouve que l'image du petit renard, du coup le personnage principal est accompagné d'un petit renard, elle explique que c'est son trouble bipolaire à elle, et que du coup des fois il agit sur elle, quoi.
Puis c'est intéressant, ça veut dire qu'il dissocie la maladie de la personne aussi, c'est-à-dire qu'encore une fois on n'est pas le malade, on vit avec, mais on reste nous-mêmes, ce que vous avez d'ailleurs dit tout à l'heure.
Ouais, c'est... Vous avez tout dit là.
On n'est pas défini par notre maladie, c'est ça.
Ouais.
C'est juste qu'elle est là et qu'on vit avec. On arrive déjà au terme de cette émission et j'avais quand même cette question que je voulais vraiment vous poser. Ayel, comment vous allez aujourd'hui? Comment vous vous sentez? Le fait justement d'avoir fait ce double coming out, j'allais dire auprès de vos proches, puis maintenant auprès du public. Est-ce que ça libère des choses pour vous? Comment vous allez?
Je vais bien, ça va. Je gère mon truc.
Ouais.
Mais c'est pas fini, c'est jamais fini. Des fois, c'est fatigant, du coup, de se dire c'est jamais fini. Mais on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais là, mes grosses problématiques, c'est plus travail. C'est comment réussir à combiner les phases, les différentes phases avec le travail, qui pourtant m'aide. On en parlait avec Marie-Paul... Ouais. Hors antenne, mais en fait ça m'aide beaucoup parce que ça me... Donc moi j'ai qu'un mi-temps, du coup j'ai deux boulots. je suis artiste et je travaille à la banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle.
D'accord.
Et je travaille le matin et du coup en fait ça me donne un rythme en fait et ça me permet de pas avoir trop à réfléchir aussi en fait. C'est une habitude, on se lève le matin, on va bosser du lundi au vendredi. Les week-ends, c'est plutôt les concerts. ça donne un rythme et je pense que pour moi, c'est salutaire, vraiment.
Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une émission où on parlera aussi de l'impact du travail dans le cadre de maladies comme le trouble bipolaire, parce qu'il y a sans doute des tas de choses à dire. Je vous remercie beaucoup Ayel de votre témoignage et de vous être livré comme vous l'avez fait aujourd'hui. C'est toujours hyper riche et pour nous, merci pour la confiance que vous nous apportez en nous racontant votre parcours et votre vie. Alors justement, pour finir cette émission, il y avait deux ouvrages dont on voulait vous parler. Vous l'avez fait effectivement pour cette bande dessinée qui s'appelle, on va rappeler le titre de la bande dessinée.
Ça s'appelle Goupil ou Face. Goupil comme le renard de la fable. Alors, Goupil ou Face de Lou Luby. C'est un pseudonyme, l'auteur, Lou Luby.
Et puis il y a Savoir pour guérir les troubles bipolaires, c'est ça, La réponse du psy, c'est une troisième édition, à ce que je vois, du professeur Pierre-Alexis Geoffroy, voilà, qu'on vous conseille également de lire. Merci également à vous, docteur Marie-Lou Lamourette, d'être venu nous éclairer sur cette maladie. On le rappelle, c'est bel et bien une maladie chronique, comme tant d'autres maladies, donc c'est important de le dire et de mettre le mot dessus. Merci Marie-Paul. Et puis, bah, on espère que vous avez appris plein de choses. Et puis, bah, nous, on se retrouvera le mois prochain pour un prochain rendez-vous de Full Santé Mentale. Très belle journée à vous.
Merci.
À bientôt.
Merci
à vous aussi. Au revoir. Au revoir.